16h, Olivier Delacroix sur Europe 1.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Europe 1, nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 16h. Je suis ravi de vous retrouver comme chaque jour pendant une heure. En compagnie de ma chère camarade Ombline, je suis Olivier Delacroix et on se retrouve tous les jours.
Oui, bien sûr.
On est à la veille du week-end, ma chère Ombline, c'est pas mal ça.
On passe un bon vendredi. Bonjour à tous, bonjour Olivier.
À la question « Que faites-vous dans la vie ?», certains n'aiment pas répondre. La raison, ils font un métier mal considéré ou mal aimé, auquel colle une mauvaise image. Ils sont éboueurs, agents de propreté, contrôleurs. Ils subissent clichés et préjugés au quotidien. Pour beaucoup, c'est un travail alimentaire. Qu'on y reste quelques mois ou des années, comment apprécier son travail quand il est mal vu, mal compris ou mal jugé? Que vivent au quotidien ceux dont le métier est mal considéré, parfois même marginalisé? Les métiers mal aimés, c'est notre sujet d'aujourd'hui sur Europe 1. Nous attendons vos témoignages, vos histoires. Nous sommes là pour vous écouter.
Et pour nous joindre, 39 21 50 centimes la minute. Votre message, si vous le souhaitez, sur Twitter avec le hashtag Europe 1, ou vous nous écrivez bien sûr via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Et il y a déjà pas mal de messages.
15h, 16h, partageons nos expériences de vie avec Olivier Delacroix sur Europe 1.
Et nous accueillons notre premier auditeur, Christophe. Soyez le bienvenu sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour.
Allô, allô.
Oui, ça y est, vous êtes là. Comment allez-vous?
Oui, ça va, merci.
Ça va très bien, écoutez, ça roule. Aujourd'hui, il fait beau, donc après cette semaine toute grise, c'est un joli vendredi. Vous avez quel âge, Christophe, et vous nous appelez d'où?
J'ai 42 ans, j'appelle de Bordeaux.
D'accord. Alors, cela fait 11 ans que vous êtes éboueur. Comment êtes-vous arrivé dans ce métier, déjà?
Par hasard, tout à fait par hasard, parce que je travaillais dans un bar tabac dans une gare à Bordeaux,
oui,
dans le milieu de la nuit, qui était ultra violent. Donc voilà, puis j'en avais assez de travailler dans ce climat et cherchais à tout prix de partir de là où j'étais. Mm-hmm. Donc j'ai envoyé mes demandes à droite, à gauche, dont à l'époque ça s'appelait Comité Urbain de Bordeaux,
oui,
pour entrer à la collecte des déchets.
Mmh. Alors ça a eu longtemps une mauvaise image, hein, celle des boueurs en tout cas, j'ai l'impression que ces dernières années, en tout cas ça fait 10-15 ans que l'image s'est améliorée. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Alors oui et non.
Oui,
oui,
et non.
Oui, tout dépend, en fait tout dépend des collectivités et les villes où on habite.
Oui.
Si c'est une ville de taille moyenne, grande ou petite, la proximité à l'usager n'est pas du tout, est totalement différente en fait d'une ville à l'autre. Mmh. Donc il y a des éboueurs qui vont se reconnaître dans ce que je vais dire et d'autres pas du tout. Mmh. Parce que forcément, nous on est en ville par exemple.
Ouais.
Et encore Bordeaux, ça va, ça reste relativement tranquille. Mais quoique
c'est une grande ville quand même. C'est une grande ville.
Grande ville, ouais. Et voilà, les usagers, en fait, le comportement des usagers est totalement irrationnel, surtout mmh. en nord d'Amboise. Et donc, effectivement, notre image, est mal aimée. Quoi.
Mmh. Alors, justement, on va en parler, Christophe, de cette image et des usagers, surtout, et de ce qu'ils en font, de cet usage des poubelles. Mais qu'est-ce qui vous a marqué les premiers jours dans ce nouvel emploi?
Alors, moi, les premiers jours, c'est de là où je venais, c'est le calme qui régnait au sein de la collecte, au sein des éboueurs, la bonne ambiance.
Oui.
C'est vraiment ce qui m'a marqué le plus, quoi, parce qu'on était énormément. Mmh. Dans mon dépôt, on était plus de 200 bonhommes le matin, à 5h le matin. Et c'est cette bonne ambiance qui m'a marqué, parce que moi, j'arrivais le milieu de la nuit avec du bruit tout le temps et tout ça.
Ouais.
Donc voilà. Après, ce qui m'a marqué, effectivement, à la collecte, c'est la pénibilité. Parce qu'on ne peut pas parler du métier des boueurs sans parler de cette pénibilité qui est quotidienne. Et,
cette pénibilité, et voilà. En fait, elle est liée quoi, aux contraintes physiques de ce métier?
Oui. Ouais. oui, totalement. Oui, c'est totalement physique. Oui, quand je suis rentré... Moi, j'ai dormi avec des bandes de kétoum pendant une semaine chez moi. Et je ne sais même pas si j'allais continuer au départ, tellement c'était rude, quoi. Franchement, travailler...
C'est quoi des bandes de kétoum? Excusez-moi, je ne sais pas ce que c'est.
C'est des bandes anti-inflammatoires.
Ah oui, d'accord. Ouais.
Voilà, parce que ça me tirait partout dans les tibias et dans les avant-bras.
Ouais.
Forcément, après, je n'étais pas sportif, donc ça m'a fait un choc psychologique.
Ouais.
Et voilà, c'est pour ça que j'ai énormément de respect pour tous ces hommes qui font ce métier, et c'est quelques femmes qui le font aussi, parce que voilà, c'est un métier où il y a beaucoup d'a priori, beaucoup de personnes pensent que c'est un métier facile, qu'on est des fainéants et tout ça, et c'est totalement le contraire. Ouais,
des privilégiés. Je crois savoir qu'en 11 ans, la façon dont les gens se comportent avec vous a bien changé, racontez-moi.
Oui, ben en fait, moi, quand je suis rentré en 2007 à la collecte, moi, j'ai eu la chance de connaître ça, c'est-à-dire à 7h le matin, vous... Des gens vous arrêtent, venez prendre le casse-croûte, vous avez soit l'entrecôte, pâté, saucisson, des gens que je connaissais de nulle part qui vous font entrer chez eux, qui ont énormément de respect pour les éboueurs. Alors, ça arrive souvent dans les campagnes, ça.
Oui.
Mais en fait, voilà, il y a de plus en plus d'individualisme dans notre société.
Mmh.
Et voilà, et ça, c'est des choses qui se perdent. Et nous, la proximité, je sais que les éboueurs sont très, très demandeurs. Parce que nous, on voit relativement soit personne, parce qu'on travaille très tôt, tout le monde dort. Ou soit quand on voit les gens, c'est pour malheureusement les ennuyer et boucher les rues. Donc, ces petits moments privilégiés, c'est vraiment des moments... Ça n'a pas de prix, quoi. C'est vraiment des moments exceptionnels.
Mmh. En même temps, moi, j'habite le quartier des Abbesses, hein, vous voyez, et je sais que voilà, les éboueurs, je les connais, on discute ensemble, et je vois combien c'est important pour eux, justement, cet échange-là, en tout cas, cette considération, parce que finalement, les gens vous considèrent mal. Vous avez quelle impression sur le regard qu'ils portent sur vous, en règle générale ?
Alors, en général, je veux dire, c'est bien. Moi, je parle de mon cas Bordeaux. Moi, le truc, c'est que je fais le Tour de France avec mon association qui s'appelle Collectif Reaper.
Ouais.
Je pars chaque année sur mon temps personnel, sur mes congés, rencontrer d'autres éboueurs avec des collègues de toute la France. Mmh. On s'aperçoit que l'image, va, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, varie de ville en ville. Quoi.
Ouais.
Mais il y a
où est-ce que c'est le plus dur, à votre avis ? Est-ce que des villes comme Marseille, par exemple, je pense à Marseille, où en fait, on voit, hein, quand les éboueurs se mettent en grève, hein, on voit vite combien, voilà, c'est un métier, même s'il est mal considéré, combien ça nous permet d'évacuer.
Vous allez à Bordeaux, dans des quartiers à Bordeaux, pour vous donner à Marseille, hein, où on voit que l'incivilité est quotidienne. Et c'est vraiment, voilà, pour nous, c'est un manque de respect total quand on voit, par exemple, des poubelles vides et que les gens prennent pour habitude de mettre leurs déchets à même le sol.
Oui.
Alors moi, personnellement, je ramasse pas parce que, voilà, c'est un manque de considération pour nous. Il y a des conteneurs à disposition des gens, il faut qu'ils le mettent dedans. Donc voilà, c'est ce genre d'incivilité où on voit de plus en plus de gens qui prennent l'habitude de mettre leurs déchets à même le sol. Et moi, je l'ai vécu, des gens qui nous voyaient arriver avec le camion poubelle, ouvrir la porte et nous jeter la poubelle par terre.
Oui, il y a un manque d'éducation profond, hein, de la part de pas mal d'individus.
Et malheureusement, plus ça va et moins ça va. Quoi.
Alors justement, j'allais vous poser la question parce que finalement, moi je suis aussi consommateur, hein, donc je vois, je me plie aux poubelles jaunes, aux poubelles vertes, en tout cas au tri. Est-ce que c'est assez suivi, ça ? Parce que ça va dans le respect de votre travail aussi, en tout cas à collaborer à votre travail. Est-ce que vous trouvez que les gens sont plus conscients de tout ça ?
Oui, moi je le vois au quotidien, je dirais oui. Le seul problème, c'est dans les résidences, quoi. C'est-à-dire, hein, où il y a plusieurs locataires, où forcément il y a 90% qui trient bien.
Oui.
Et il y a 10% qui vont faire en sorte que, ben, malheureusement, on ne peut pas prendre le conteneur parce qu'ils mettent du verre, ils mettent n'importe quoi dedans. Donc, mais oui, le tri, ça va, quoi.
En tout cas, globalement, est-ce que vous vous sentez plus respecté aujourd'hui en tant qu'éboueur, vous, à Bordeaux ?
Oui, enfin en général, oui. Après, il y a un truc, c'est il faut être éboueur, avoir mis cet uniforme pour sentir une sorte de mépris, parce que voilà, il y a du mépris de la part de certaines personnes alors qu'on ne connaît même pas, on ne sait pas pourquoi, mais tout se joue dans le regard. C'est une discrimination sociale qui est énorme. Alors voilà, tous les éboueurs ne le vivent pas, heureusement, hein, mais il y en a beaucoup qui le vivent aussi et qui se sentent humiliés, ne serait-ce que par... C'est inexplicable comme ça, mais c'est pour mettre cet uniforme pour le voir de suite, quoi.
En tout cas, je rappelle que pour tous ceux qui nous écoutent et qui ont eu à ne pas vivre justement une grève de quelques jours, hein, des éboueurs, combien aujourd'hui on doit continuer à considérer et reconsidérer ce métier mal aimé, parce qu'il ne le mérite en rien. Je rappelle que vous avez une association, hein, qui s'appelle le collectif Reaper, pour redorer l'image des éboueurs, et je vous remercie mille fois pour votre témoignage aujourd'hui au 3921, Christophe.
Europe 1. Et j'ai un message de Delphine, pardon. J'ai pas été assez rapide. Delphine, qui est agent d'entretien, cantinière, elle nous dit: quand les gens ont l'air gênés pour moi, je leur réponds que tout va bien. Il faut pas s'inquiéter, ça les met mal à l'aise. Et moi, ça m'amuse. Delphine, c'est un message. Métiers mal considérés, éboueurs, contrôleurs. Êtes-vous embarrassé quand vous parlez de votre travail, vous témoignez, vous nous racontez votre histoire au 39-21.
Et nous sommes justement avec Jean-Noël. Bonjour, soyez le bienvenu sur l'antenne d'Europe 1, Jean-Noël.
Oui, bonjour Olivier, bonjour à toute l'équipe et bonjour aux auditeurs d'Europe 1.
Bonjour, quel âge avez-vous, Jean-Noël ?
Alors j'ai 48 ans.
Vous êtes contrôleur à la RATP depuis 23 ans, hein, c'est ça ?
Exactement.
Comment est-ce que vous avez choisi ce métier-là ?
Bah écoutez, de prime abord, moi j'avais la volonté d'intégrer une grande entreprise francilienne, si possible, parce que j'avais eu auparavant l'occasion d'exercer des petits boulots, hein, surtout des CDD. J'ai eu différentes expériences professionnelles, ouais, dans le secteur privé notamment. Et je souhaitais un emploi stable, hein, puisque toutes ces expériences étaient plutôt en demi-teinte. Mmh. Alors, comme moi, j'ai grandi en Seine-Saint-Denis, la RATP, ça apparaissait pour moi comme un acteur incontournable du paysage urbain. Il y avait des bus partout en ville, la ligne 5 du métro à proximité. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai postulé la RATP au départ pour conducteur de bus. Et lorsqu'on a retenu ma candidature, on m'a dit, vous savez, en ce moment, on n'embauche pas de conducteur. Par contre, on a une session de contrôleur qui ouvre. Est-ce que vous êtes intéressé?
Oui.
Donc, à ce moment-là, moi, qui n'avais aucun a priori sur ce métier, d'ailleurs, j'ai accepté bien volontiers, puisque ce qui comptait pour moi, c'était de pouvoir rentrer à la RATP.
Alors, 23 ans que vous faites ce métier, et vous dites aujourd'hui que vous ne faites pas que mettre des amendes dans les bus, métro ou RER. En quoi consiste votre métier, au-delà de contrôler les gens?
Bah, écoutez, on pratique d'abord une mission de service public, hein, faut pas l'oublier, la continuité du service public, en tout temps, en tout lieu, hein, dimanche et jour férié, vous avez les agents RATP qui sont à pied d'œuvre, donc que ce soit les conducteurs, les agents de station, les gares, et bien évidemment les contrôleurs.
Oui.
Et puis, vous savez, aujourd'hui, le client voyageur est en demande d'une relation de service plus importante. Mmh. Ils sont en demande de présence humaine. Et le contrôleur trouve toute sa place dans cet
environnement.
Ouais.
Oui, vous dites que vous travaillez quand même dans un environnement qui n'est pas toujours facile, voire hostile. Qu'entendez-vous par là? Parce que vous dites que vous êtes de Seine-Saint-Denis, 23 ans que vous êtes contrôleur. Est-ce que la situation s'est dégradée dans cet environnement?
Alors, l'expérience que j'en ai, c'est que quand j'ai commencé à faire ce métier, les situations étaient beaucoup plus difficiles qu'elles le sont aujourd'hui. Mmh. Il y avait une tension sociale beaucoup plus grande, notamment en Seine-Saint-Denis où j'ai grandi, qu'il y a aujourd'hui, même s'il y a une permanence de problèmes, hein, on le voit avec l'actualité, hein, on voit qu'il y a toujours ces incivilités, toujours de la part des mineurs, vous voyez l'affaire de la Gifle récemment avec le collègue machiniste,
ouais.
On est toujours dans cet environnement quand même un peu délétère, mais malgré tout, moi je considère que à la fois notre image et nos missions, l'image s'est améliorée et nos missions se sont enrichies au fur et à mesure des années.
Mmh.
Vous voyez, donc c'est pour ça cette approche métier mal aimé. Je pense qu'on reste sur des stéréotypes, des clichés qui n'ont plus lieu d'être aujourd'hui.
Ouais.
Parce que mal considéré par qui et pourquoi.
Mmh.
Donc vous voyez, je crois qu'il faut se pencher davantage sur le rôle du contrôleur. Et si vous interrogez la majorité de nos clients, vous verrez que les gens sont en demande du contrôle. Déjà, lorsqu'on est dans une action de contrôle, les voyageurs sont contents de nous voir la plupart du temps. Après,
ouais, ils se sentent sécurisés, sans doute.
Voilà, absolument. Ouais.
Mais moi qui ai 54 ans, par exemple, vous voyez, par éducation, avant, j'avais la peur de l'uniforme. Hein, donc, ça veut dire le gendarme, mais aussi le contrôleur SNCF, le contrôleur RATP. J'ai comme l'impression aujourd'hui que les jeunes générations ont perdu de ce respect vis-à-vis de l'uniforme. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous vivez et justement qui va dans ce cliché de métier mal aimé?
Bah, c'est vrai, je rejoins votre expérience là-dessus. Moi-même, étant plus jeune, les contrôleurs m'effrayaient un peu. C'est vrai qu'il y avait un peu cet uniforme. Même un simple gardien de square, hein, avait
exactement
une certaine autorité.
Mmh.
Et il est vrai qu'aujourd'hui, on arrive à une nouvelle génération, on dit souvent les gens d'après 2000, qui n'ont plus du tout ces repères, qui sont un peu anomiques, qui sont là, qui sont un peu en carence d'autorité, on pourrait dire,
ouais,
et qui ne respectent pas, déjà l'adulte, sans même parler de l'uniforme, hein,
ouais.
qui n'ont plus le respect de l'adulte.
Mmh.
Alors évidemment, quand vous êtes par exemple contrôleur et que vous contrôlez un jeune en situation irrégulière, tarifaire, qui n'a pas de titre de transport, et qu'il vous traite de tous les noms, vous vous dites, merde, je suis père de famille, mère de famille, c'est pas acceptable qu'on soit traité comme ça par un gamin.
Ça n'est pas acceptable et on l'a vu avec votre collègue l'autre jour qui a remis en place, et c'est vrai avec une petite gifle, hein, le foin que ça a fait. Hein. Donc,
oui.
Est-ce que justement il faut des qualités particulières dans ce métier, selon vous, Jean-Noël, pour faire face à ce type de situation?
Oui, je pense que d'abord il faut un grand sang-froid en toutes circonstances.
Mm-hmm.
Ensuite, il faut avoir, je pense, une grande ouverture d'esprit.
Oui.
Savoir pratiquer le discernement dans le choix de ses actions, ne pas se laisser dominer par ses émotions,
ouais.
parce que souvent les émotions nuisent à l'action, mmh. au jugement, et puis surtout ne pas avoir peur du dialogue.
Mmh. En tout cas, il est intéressant de voir que vous, en tant que contrôleur depuis 23 ans, vous sentez que l'image s'est améliorée et que les gens se sentent plus sécurisés, sentent que par votre présence, il y a toujours quelqu'un vers qui on peut se retourner et demander des renseignements, puisque vous dites que dans votre métier, il y a de très bons côtés aujourd'hui. Et c'est assez rassurant de vous entendre parler de votre métier, Jean-Noël. Merci mille fois pour votre témoignage au 3921. Dans un instant, nous allons accueillir Marie Peset. Elle est docteure en psychologie et experte judiciaire responsable du réseau de consultation Souffrance et Travail.
Et il y a Laurence qui nous écrit sur Twitter, hashtag Europe 1. Je me souviens d'une voisine qui a dit un jour à mon petit frère, tu ne vas quand même pas faire routier comme ton père pour gagner un salaire de misère. Cette phrase nous a marqué à vie, mais il en a fait son métier quand même.
Il a raison.
Europe 1.
Et oui, votre métier, victime de préjugés, vous essayez le plus possible de le cacher, ou au contraire, vous le revendiquez. Votre travail n'a pas la cote, on vous écoute au 3921. Vous pouvez aussi nous écrire. Nous vous lisons via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Vous êtes avec Olivier Delacroix et nous parlons avec vous de ces métiers qui sont mal vus, mais chacun fait ce qui lui plaît. Et vous
Exactement.
Nous racontez au 3921.
Je repensais au message que vous veniez d'avoir.
Ouais.
Quoi. Voilà, camionneur. Mais c'est un beau métier, camionneur.
Bien sûr.
Quand on aime la nuit, quand on aime être seul, quand on aime faire de la route. Voilà.
Et puis on se cache de l'utilité immense dont on a tous besoin.
Donc chacun fait ce qui lui plaît,
voilà.
Vous avez raison. Nous sommes maintenant en ligne avec Marie Peset. Elle est docteure en psychologie, experte judiciaire, responsable du réseau de consultation Souffrance et Travail. Bonjour et soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1.
Merci, bonjour.
Bonjour Marie. Pourquoi certains métiers sont-ils mal aimés et est-ce uniquement lié à l'image qu'ils renvoient ?
Oh, je crois que, comme toujours, le travail dit tellement de choses sur notre identité qu'il peut y avoir confusion entre l'activité au cœur de ce travail et puis ce qu'on vaut soi-même.
Oui. Mmh.
Mais ce qui est extraordinaire dans ceux qui ont témoigné depuis le début de l'émission, c'est que vous avez entendu à quel point ils investissaient leur travail, à quel point ils tentaient de le faire le mieux possible, et à quel point surtout ils ont tous compris, et sûrement les prochains témoignages le diront aussi, que ce sont les métiers qui tiennent le monde au jour le jour. Ils sont indispensables. Que ferions-nous sans les éboueurs, sans les gardiens de prison, sans les contrôleurs, sans les femmes de ménage, sans les auxiliaires dans les hôpitaux? Que ferions-nous s'il n'y avait pas des gens pour s'occuper de la saleté, des soins, de s'occuper de l'ordre? Car en fait, ce sont les métiers qui tiennent une société à peu près en ordre.
En ordre,
et bien sûr,
oui.
c'est un travail ingrat, mais les gens qui le font savent à quel point il est utile. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à Fatima El Ayoubi, cette patiente que j'avais eue à Nanterre et qui est devenue l'héroïne du film Fatima, qui a eu le César du meilleur film,
parce qu'elle est devenue écrivain,
mmh. et qui disait « Moi, je nettoie les classes le soir après le départ des enfants, il faut que ça sente bon ». Il faut que ça soit bien rangé, mais quand je suis sur le pas de la porte, je regarde, je fais un Picasso tous les soirs, il faut que ça soit beau.
Mmh.
Donc c'est important de se souvenir que les gens qui font ce qu'on appelle des sales métiers le font en fait admirablement bien, et que c'est grâce à ça que notre monde tient bien tous les jours.
Oui, vous avez raison, on l'a entendu avec Christophe et Jean-Noël, finalement arriver à ne pas souffrir dans ce métier, c'est mettre du plaisir dedans et être fier de le faire. Mais finalement, on a l'impression que c'est la société qui a du mal à évoluer par rapport à ces métiers. Pourquoi, à votre avis ?
Mais la société, elle regarde de façon sale la saleté, parce que c'est comme ça que nous avons été élevés par nos parents et par notre mère, à trouver absolument dégoûtant de toucher tous ces machins-là. Et j'ai envie de vous dire que, comme par hasard, ces métiers ont à voir avec les tâches domestiques que les femmes font à la maison en essayant de les escamoter, de les cacher, de ne pas trop les montrer.
Mmh.
Encore une fois, tout ce qui peut apparaître de près ou de loin ressembler à du désordre, à de la saleté, on n'a pas envie de le voir parce qu'on veut construire une image très policée de notre société, de notre environnement.
Mmh.
Mais il faut savoir qu'à la maison, il y a des mamans qui font ça et que dans la société, il y a des hommes et des femmes qui, grâce à eux, font que notre environnement est fréquentable.
Mmh. Comment pour ceux qui ont encore honte d'annoncer dans les, avec leurs amis ou dans une réunion, quel est leur métier, comment gérer une honte éventuelle liée face à un auditoire lié à ce métier, cette honte ?
Eh bien, moi, je leur conseillerais de lire « Prière à la lune » de Fatima El Ayoubi, parce qu'elle a une magnifique diatribe sur le fait que les gens qui enlèvent la poussière du monde sont ceux qui permettent au monde d'avoir un air convenable et que ce sont donc des personnages absolument indispensables. Ce sont ces métiers qu'il faut réhabiliter. Et d'ailleurs, heureusement que, par exemple, comme les éboueurs, on les a mieux habillés avec des camions poubelles de très belles tenues et qu'on les a technicisés pour rehausser un tout petit peu leur environnement. C'est très important de le rappeler tous les jours et de ne pas considérer avec mépris ce qu'ils ramassent, parce qu'après tout, c'est nous qui jetons tout ça dans les poubelles et qui devrions regarder ce mépris-là dans les yeux.
Et comme vous le disiez tout à l'heure, Marie Pesé, c'est qu'ils sont un maillon essentiel pour que cette société reste vivable. Vous êtes experte judiciaire responsable du réseau de consultation Souffrance et Travail. En quoi consiste votre mission ?
Je m'occupe de gérer les 140 consultations Souffrance et Travail qui maillent tout le territoire, et en tant qu'expert judiciaire, je peux être mandatée dans une histoire de harcèlement, de suicide au travail, d'accident du travail grave, pour éclairer les responsabilités des deux parties à la demande du magistrat. C'est un domaine passionnant parce que le travail, vous l'avez compris et vous en parlez tous les jours, nous concerne absolument tous et qu'il convoque des disciplines extrêmement différentes et passionnantes pour le comprendre, l'économie, la psychologie, la sociologie, l'évolution, l'histoire. Le travail, c'est ce qui nous occupe des heures et des heures tous les jours, qui nous donne le sentiment quand on se lève le matin d'être utile au monde. Et donc, quand le travail se passe bien, il est facteur d'épanouissement, malheureusement, dans notre société, trop souvent facteur de maladie ou de passage à l'acte suicidaire.
Et dans le cadre de votre mission, vous êtes bien évidemment confronté à des personnes qui ont des métiers mal aimés, mal considérés, et vous les aidez à avancer, Marie Pesé. Nous allons, vous restez en ligne avec nous, Marie Pesé. Nous allons accueillir dans quelques instants Léa. Elle a travaillé dans un fast-food et garde vraiment de très mauvais souvenirs de cette époque.
Europe 1. Quand la question que faites-vous dans la vie vous rend mal à l'aise, on parle des métiers mal aimés, on vous attend au 39 21 50 centimes la minute, vous nous écrivez sur Facebook, hashtag Europe 1. Des métiers mal considérés, est-ce le vôtre ? Peut-être, vous n'hésitez pas à témoigner. Olivier Delacroix vous écoute au 39-21.
Et nous sommes en ligne maintenant avec Léa. Bonjour, soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1, Léa.
Bonjour, merci.
Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous ?
Alors, j'ai 21 ans et je vous appelle depuis Lyon.
D'accord. Vous faites quoi aujourd'hui ? Donc, vous êtes étudiante ?
Alors, actuellement, oui, je suis étudiante en deuxième année de communication.
D'accord.
Et du coup, à la recherche d'un emploi, parce que j'ai quitté le mien, il y a peu.
D'accord. Mais vous faites toujours vos études, en fait. Vous êtes encore...
Oui.
D'accord.
C'est une priorité pour moi. J'ai besoin de travailler parce que financièrement, je ne peux pas faire sans, mais je ne compte pas arrêter mes études.
Alors justement, dans le cadre de ces boulots que les étudiants cherchent, vous avez été embauché dans un fast-food et vous avez fini par démissionner au bout d'un mois et demi, tellement c'était dur. C'était il y a combien de temps, cette mission ?
C'était en septembre-octobre.
Très récent. Racontez-moi cette expérience que vous avez vécue.
C'est pas tant l'équipe ou le travail qui était vraiment dur et épuisant, mais c'est vraiment les clients surtout qui m'ont choquée, on va dire.
Ouais.
Parce que je m'attendais pas à ce que les gens soient aussi irrespectueux en fait envers les employés.
Ouais.
Enfin, c'est comme si les employés n'existaient vraiment pas pour eux. Ça m'a vraiment surpris.
Ouais. Du type, par exemple, citez-moi des choses qui vous ont, comme ça, si vous en avez, des choses qui vous ont vraiment choqué.
Par exemple, quand on doit changer la poubelle en salle pour maintenir la propreté et que les gens, au lieu de faire un tout petit détour de quelques pas, préfèrent vous enjamber, vous et la poubelle, plutôt que faire un petit détour. Ou alors, notre client qui nous avait rendu le verre d'eau en le jetant par terre. Ça nous a un peu surpris aussi.
Oui, c'est surprenant, oui. Dites-moi.
Les gens qui se plaignent de la saleté, alors que quand on voit l'état dans lequel ils laissent leur table, c'est assez surprenant aussi. Mm-hmm. On ne comprend pas pourquoi ils se plaignent après.
Comment vous aviez l'impression d'être considérée, Léa, finalement ? Est-ce que vous aviez l'impression d'être considérée comme le larbin de service, un peu parce que quand vous décrivez...
Et puis, assez inexistante aussi, parce que j'avais beau dire bonjour avec le sourire et tout ça, parce que ça me semble être la moindre des choses quand on travaille. Les gens me regardaient même pas, alors que ça coûte rien de dire bonjour ou ne serait-ce que sourire.
Est-ce que vous attachez ça à un manque d'éducation de la plupart des clients qui vous ont choqué?
Peut-être un manque d'éducation, mais aussi à l'esprit fast-food, entre guillemets.
Ouais.
Parce que je pense que les gens, dans leur esprit, ils se disent « Ah, de toute façon, les fast-food, c'est sale, donc j'ai pas besoin de faire attention. Mmh. » Et je pense que justement, c'est en pensant comme ça qu'ils font qu'empirer les choses. Et, donc je sais pas si c'est un manque d'éducation, mais voilà, c'est ce que j'ai ressenti.
Comment est-ce que vous vous êtes protégée, Léa?
Parce que ça devait être dur. En restant toujours très polie.
Ouais.
Envers les autres, en me disant de toute façon, s'ils sont désagréables, c'est pas ma faute, parce que moi je fais tout ce que je peux pour être agréable pour les clients.
Mmh. Et lorsque vous êtes partie, c'est que vous ne pouviez plus
oui,
supporter.
C'est ça. Mmh. Ça me mettait vraiment beaucoup de pression de me dire ah, ce soir je dois aller travailler, j'ai pas envie, j'avais vraiment vraiment pas envie d'y aller. Mmh. Et du coup je me suis dit, vaut mieux arrêter et chercher autre chose plutôt que de continuer à me sentir mal comme ça pour si peu.
Je me tourne vers vous, Marie Peset. Je rappelle que vous êtes docteur en psychologie, experte judiciaire, responsable du réseau de consultation souffrance et travail. Comment réussir à ne pas se préoccuper du regard des autres et de leur attitude et finalement de l'image qu'ils vous renvoient de cette mission, de ce métier que vous faites?
Tous ceux qui ont témoigné vous l'ont dit, en se concentrant sur son travail, même cette jeune fille vous l'a dit, au fond c'était pas tant le travail que la manière dont les gens la traitaient, mais vous savez, ça n'est que au fond un vaste regard sur l'état de la société française et sur la dégradation du vivre ensemble, hein, que cette manière de traiter les gens qui nous servent ou bien les gens qui s'occupent de nous, ce n'est que le constat de l'état de dégradation de la solidarité partout dans ce pays qui se manifeste.
Vous restez en ligne avec nous, Marie Peset, et là, restez en ligne aussi avec nous. On va continuer à parler de tout ça dans quelques instants. On accueillera Sam, il est agent de la propreté de Paris et fait tout pour faire reconnaître son métier. Ça sera intéressant d'entendre son témoignage et puis ensuite d'échanger les uns avec les autres.
Et il y a Sabine qui nous écrit via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1. Sabine, assistante maternelle à domicile, les réflexions. Vous êtes en vacances toute l'année ou toi, c'est pas pareil, tu travailles à la maison. C'est pourtant un travail très prenant avec beaucoup d'heures et beaucoup de responsabilités.
Europe 1.
Ces métiers auxquels on colle une mauvaise image, est-ce que c'est le vôtre? Comment le vivez-vous au quotidien? Venez nous faire part de votre témoignage au 39-21.
Olivier Delacroix sur Europe 1.
Quand on exerce un métier qui n'est pas à la mode, plutôt mal aimé, quoique indispensable, comment le vivez-vous? Vous êtes avec Olivier Delacroix sur Europe 1, le 39-21 pour nous appeler.
Et nous parlons aujourd'hui des métiers mal aimés, comme vous le disiez, Ombline, et nous sommes maintenant en ligne avec Sam. Bonjour, soyez le bienvenu sur l'antenne d'Europe 1, Sam.
Oui, bonjour.
Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous?
Alors moi j'ai 37 ans et j'habite Paris.
D'accord, vous êtes agent de la propreté à Paris depuis 20 ans et je crois savoir que vous avez suivi les traces de votre père. Lui, il faisait le même métier que vous?
Oui, c'est tout à fait ça. Mon père a commencé dans les années 1970.
Oui.
Et il était éboueur, je le salue d'ailleurs, qui vous m'écoutez.
Oui.
Et donc en fait j'ai suivi un petit peu ses pas et j'ai été éboueur pendant 10 ans et j'ai ensuite intégré une formation pour passer mes permis poids lourds et je suis passé devant la benne.
D'accord.
Je suis devenu chauffeur actuellement.
Mmh. Alors justement, l'image des éboueurs, est-ce que à votre avis elle a évolué? Est-ce que vous trouvez qu'on porte un regard un peu meilleur sur votre métier?
Oui, tout à fait, parce que déjà il y a l'évolution de la société, notamment sur les questions environnementales,
ouais.
Qui sont devenues très importantes aujourd'hui. Et moi, je me souviens que mon père me racontait souvent que il fut une époque où on disait aux enfants, si tu travailles mal à l'école, tu finiras éboueur.
Oui, oui, exactement. Ouais.
Voilà. J'ai même ma maman qui me disait ça devant mon papa, ce qui faisait quelques petits moments gênants. Mais
ouais, ouais.
Voilà, c'est quelque chose qui a évolué et parce qu'on sait que les gens se rendent compte qu'on est, je pense, indispensable. Il suffit qu'il y ait un mouvement de grève ou un retard dans la tournée de collecte et puis on peut voir les ordures s'accumuler, l'apparition de rats.
Ouais. Bah, comme le disait Marie Peset tout à l'heure, vous êtes un des maillons pour que la société continue de vivre normalement. On l'a vu à Marseille, hein, je le disais tout à l'heure, quand il y a une grève, ça devient invivable. Vous dites que certains de vos collègues n'assument pas du tout leur métier, que ce soit auprès de leur entourage ou sur les réseaux sociaux. Pourquoi, à votre avis?
Je pense que, vous savez, moi, pour revenir à mon histoire, j'ai ma maman quand j'allais à l'école. Quand on était gamin et qu'on devait noter la profession du père et la profession de la mère, Mon papa, lui, conduisait des petits engins, des petites laveuses, des petites aspiratrices. Et puis ma mère disait, ne mets pas éboueur, tu mets chauffeur.
Oui, chauffeur, oui.
Voilà. Je pense que c'est parce que les gens... Enfin, il y a certains de mes collègues qui me le disent ouvertement, tout simplement parce qu'ils ne veulent pas soit être reconnus. Il y en a certains qui ne veulent pas travailler dans le quartier dans
Vous
lequel
habitent.
Ils vivent.
Ouais.
Et puis ça reste... comment dire ça, il y a une image de travailler avec la saleté, les ordures.
Mais ça traduit quoi de notre société, en fait, justement, cette honte liée à son métier, à votre avis?
Bah, c'est simplement le regard des gens, les gens qui nous voient. Je pense que déjà, on a l'impression d'être invisible.
Ouais.
Mais si en plus de ça, les gens vous jugent, parce que moi j'ai travaillé avec des gens qui avaient des bacs, qui avaient des... Je pense que c'est ça, c'est surtout la société qui porte un regard sur les gens. Bon, Coluche disait, il n'y a pas de ce métier, j'ai oublié la phrase exacte, mais c'était à peu près ça, il n'y a que des mauvaises personnes en fait. Et c'est surtout le regard des gens.
Ouais. Lorsque vous dites que vous êtes invisible, j'aimerais bien que vous m'expliquiez cette sensation-là, de se sentir invisible.
Alors moi, j'ai un ancien collègue qui m'avait dit un jour, les facteurs sont plus reconnus alors qu'ils apportent les factures.
ouais, c'est vrai.
Donc en fait, c'est ça, c'est que on va faire, c'est un travail de Sisyphe, hein, c'est un peu le mythe grec. On va rendre une rue propre. Et puis les gens, pas tous bien entendu, hein, la plupart des gens, ça se passe très bien. Mais vous avez certaines personnes, je vais vous prendre une anecdote. Moi j'ai lavé par exemple, il n'y a pas si longtemps que ça, avec un lancier, on a lavé le boulevard Montparnasse.
Oui.
Vous avez quelqu'un qui passe devant nous, habillé BCBG, hein, c'est toutes les classes de la société, hein,
ouais.
Et qui s'est amusé à lancer devant nous son papier d'emballage du croissant qu'il venait de manger il y a un instant. Mm-hmm. Et on a l'impression, enfin certes, parfois on a l'impression qu'il y a du mépris. On a eu une personne j'ai eu une personne qui un jour m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit monsieur, vous devez ramasser ça parce que moi je paye des impôts. Alors j'ai tendance à répondre par l'humour en disant « moi je n'en paye pas, je suis citoyen monégasque
ouais. ». Mais vous avez cette impression de mépris, justement vous évoquez une personne qui dit « moi je paye des impôts ». Je posais cette question à Léa, vous avez cette impression aussi que les gens pensent que vous êtes finalement à notre service, hein, au service de la société, que vous devez ramasser tout ce qui traîne?
Oui, en fait, je disais, heureusement que ça reste une minorité de personnes. Malheureusement, cette minorité de personnes va pouvoir vous pourrir la journée juste par une parole désagréable.
Ouais.
Et le fait est que moi, j'ai créé par exemple le compte Twitter. C'est justement pour pouvoir expliquer aux gens, avec l'accord de ma hiérarchie, bien entendu,
ouais.
Pour expliquer aux gens notre quotidien. Parce que vous avez parfois des gens qui vont nous voir arrêter au café... Mais ces gens ne savent pas qu'on est debout depuis 5h30 du matin, qu'on a ramassé des centaines de conteneurs d'ordures
ouais,
ménagères.
Des tonnes, ouais. Ouais,
mmh, voilà. Mmh. Et nous voir au café à ce moment-là, ils ne se rendent pas compte qu'il y a tout un travail avant qui a été fait et que c'est juste une petite pause. Mmh.
Restez en ligne avec nous, Sam. Nous sommes toujours en ligne aussi avec Marie Peset et avec Léa. Et dans cette dernière partie d'émission, on va revenir justement. Vous me direz, hein, Sam, quel est le compte Twitter, l'énoncé du compte Twitter sur lequel on peut suivre justement, vous suivre et en apprendre un peu plus sur votre métier. On parle de tout ça dans la dernière partie de l'émission.
Oui, via le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1, Patrice nous raconte « J'ai été pilote de ligne. Suite à un accident, j'ai dû me reclasser en conducteur de bus. Mon cercle d'amis a radicalement changé. »
Europe 1.
Quand vous ressentez qu'on aimerait pas exercer votre métier, que ressentez-vous? Vous exercez un travail mal considéré? Vous nous racontez au 39-21. On parle des métiers mal jugés avec vous, Olivier Delacroix, et un message de Lucie qui nous a appelé au 39-21. Je suis cliente d'un supermarché à Pau qui a eu la bonne idée de mettre des photos de ses employés dans les rayons. Ces personnes sont identifiées désormais. Elles ont un nom et une identité. Je trouve ça bien.
Eh ben moi, je trouve ça très bien. Justement, Sam, vous en pensez quoi si chaque mairie d'arrondissement ou chaque mairie un jour faisait une campagne, hein, et mettait les photos des agents de propreté de chaque quartier? Ce serait une belle initiative, ça.
Oui, bah alors actuellement, nous, au niveau de la mairie, on reçoit la visite souvent d'adjoints, de Madame la maire, qui nous encourage, qui nous. Mais oui,
ça serait une manière de dire, vous voyez, tous les jours, c'est par Sam, c'est par Hervé, c'est par Isabelle que vos rues sont propres, que vos poubelles sont triées. Et enfin, je trouve que c'est une belle initiative qu'il faudrait suivre, ouais. Cette initiative qui est dans le privé pour l'instant. Revenons sur votre compte Twitter, Sam. D'abord, on vous trouve où ? Dites-moi cette adresse Twitter.
Alors, j'ai créé ce compte sur le @propreté de Paris, tout simplement.
D'accord. Et alors, quelles questions on vous pose, par exemple ?
Alors, c'est souvent sur, par exemple, pourquoi est-ce que... comment ça fonctionne ? Comment est-ce que... à quelle heure vous passez, ouais. C'est ce genre de questions basiques.
Ce sont des questions assez pratiques, en fait.
Voilà, assez pratiques. On a parfois j'ai parfois des demandes auxquelles je ne peux pas répondre, parce que, comme je l'explique, moi, je ne suis qu'un agent de terrain.
Oui.
J'essaie de répondre aux personnes, voilà, dans la mesure de mes connaissances. Je ne peux pas savoir tout ce qui se passe dans Paris.
Oui.
Et j'invite justement tous les Parisiens à utiliser l'application Dans ma rue.
Oui.
Et @ParisJécoute, qui est sur Twitter, pour signaler tous les dysfonctionnements auxquels ils sont confrontés.
Est-ce que vous recevez des tweets un peu insultants, parfois ?
Insultant, non. Malheureusement, il y a certaines personnes qui pensent que, peut-être que je représente aussi
l'administration.
Les
ouais.
Voilà. Donc, je reçois parfois des commentaires assez désagréables pour me dire que, voilà, les équipes de tel arrondissement ne font rien. Ironique, parce qu'on dit comme quoi on travaille avec. En prenant des photos, bien sûr, de certaines souillures sur le trottoir,
oui.
En disant qu'on travaille avec implication, alors que moi, j'aime mon travail, je le fais avec implication, la plupart de mes collègues également. C'est ce genre de choses qu'on peut retrouver dans la rue, en fait, avec les personnes que je citais qui sont assez toxiques. Au quotidien.
En tout cas, vous évoquez aussi ce travail d'équipe. D'ailleurs, quand on croise les agents de propreté à Paris, hein, moi je parle de Paris, je trouve qu'il y a toujours, on voit un esprit d'équipe, une grande solidarité. Il y a toujours des gens qui sont gays. Et vraiment, je ne le dis pas pour vous faire plaisir, hein, c'est vraiment ce que je remarque. Léa, je me retourne vers vous parce que vous évoquez tout à l'heure l'équipe, hein, dans ce fast-food où vous avez travaillé un mois et demi. Vous dites qu'il y avait aussi cette solidarité dans cette équipe, mais que finalement, c'était les clients, hein, qui vous ont fait plier et qui vous ont éreinté. Est-ce que vous aviez l'impression, comme Sam l'évoquait tout à l'heure, d'être invisible à leurs yeux ?
Oui, clairement.
Mm-hmm. Dans quel cas ? Expliquez-moi, dans ce que vous m'avez dit tout à l'heure, ils enjambaient la poube, ils préféraient nous enjamber, mais dans quel autre cas vous aviez cette impression ?
Quand on essaye de passer, parce qu'on doit... Par exemple, on doit aller chercher du stock ou quoi que ce soit.
Oui.
On a beau dire pardon, excusez-moi, le plus poliment possible et le plus fort possible, les gens ne se retournent pas ou n'essayent pas de s'écarter.
Mm-hmm. Bon, en tout cas, vous n'y retournerez pas une seconde fois.
Clairement pas.
Clairement pas, d'accord. Ombline ?
Oui, je voudrais savoir, Léa, est-ce que d'avoir un contact direct avec les gens, finalement, qui viennent de partout, est-ce que ça vous donne envie quand même de travailler dans un métier, puisque vous êtes à la recherche d'un emploi, où vous serez en contact avec les personnes, ou est-ce que vous, justement, d'être toujours en contact avec des gens qui sont parfois mal lunés, ça vous a vacciné ?
Non, du tout. J'aime énormément le contact avec les gens, mais c'est, je pense, la population, entre guillemets, des fast-foods qui est assez particulière. Enfin, j'imagine qu'on ne retrouve pas ce genre de personnes dans un restaurant 4 étoiles ou même dans un coffee shop.
Méfiez-vous. Ça, c'est encore un cliché. Je ne suis pas du tout sûr de ça. Je pense que des gens mal élevés, il y en a partout, dans les fast-food comme dans les 5 étoiles.
Mais pour avoir travaillé dans un restaurant et avoir fait un essai dans un coffee shop, j'ai pu remarquer quand même que c'est beaucoup plus rare que dans les fast-food.
Mmh. Dans les fast-food, il y a encore cette idée que vous êtes les gens sont au service de la clientèle, et ce qui est un cliché. Voilà. Très brièvement, Marie Pesé, qu'entendez-vous là lorsque vous écoutez Léa, quand vous écoutez Sam, sur ce côté invisible ? Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez vous aussi dans vos consultations ?
Bien sûr, ce sont des métiers, mais encore une fois, comme la femme au foyer, dont les savoir-faire sont tout à fait invisibles. Mais quel dommage que dans ce pays, on continue à avoir du mépris pour l'école bleue, à n'admirer que les gens sortis des grandes écoles, ou d'écoles de commerce à continuer à afficher un mépris pour des métiers pragmatiques qui, encore une fois, rendent notre monde quotidien tout à fait vivable. Il y a véritablement dans ce pays, autour de la notion de travail, quelque chose qui ne fonctionne plus normalement. Vous avez entendu tous vos témoins aujourd'hui ont dit à quel point ils aimaient leur travail.
Exactement.
Et à quel point il y avait une solidarité dans leurs équipes de travail. Et donc, il faut leur dire aujourd'hui à quel point on les remercie d'entretenir notre monde. Et tant pis pour les esprits grincheux qui n'ont pas compris à quel point ils étaient utiles.
Et Europe 1 les remercie aujourd'hui tous et toutes, puisqu'ils sont nombreux à nous écouter sur ce thème qui était les métiers mal considérés, mal aimés. Merci Marie Peset pour vos éclairages. Merci aussi à Christophe, à Pierre, à Clémence, à Léa, à Sam de nous avoir appelés. C'est la fin de cette émission. Grâce à vos témoignages, il en ressort que les métiers mal aimés, métier mal aimé ne veut pas dire que l'on n'aime pas son métier. On l'a vu, au contraire, avec Christophe qui était boueur, avec Sam qui est agent de la propreté à Paris, eh bien on aime son métier, on prend plaisir à le faire et être avec ses collègues. Malgré tout, il faut savoir se protéger du regard des autres, être solide pour faire face aux remarques et aux incivilités et surtout au manque d'éducation quotidienne hein, même. L'entourage et les collègues sont des soutiens importants. Savoir pourquoi l'on fait ce travail et y trouver un sens est aussi la clé hein, pour bien vivre un métier qui a une mauvaise image. On l'a vu aujourd'hui avec certains auditeurs, mais pour beaucoup, on remarquera et on retiendra qu'ils sont heureux. Vous pouvez continuer à en débattre sur notre page Facebook et sur les réseaux sociaux.
Oui, n'hésitez pas à rejoindre le groupe de l'émission sur la page Facebook d'Europe 1.
Et restez bien avec nous sur Europe 1 à suivre l'information de Sophie Tussaud. Et votre après-midi continue avec Laurence Boccolini. À 16h, on jouera dans la bonne humeur avec son invité, le comédien Gilles Alma. A tout de suite sur Europe 1. Europe 1.